et aussi d'une structure qu'on appelle le chemin du disciple. Et sur les petites cartes que vous avez reçues, où il y a le thème et la vision de Victoire Centre Chrétien pour 2013, chercher, encourager, transmettre, c'est les trois termes que vous voyez ici derrière moi. Si vous allez au verso, il y a une petite lettre A, en pratique, continuer à développer le chemin du disciple d'une manière lisible et cohérente pour que chacun puisse croître. Donc, on va parler pendant 5-7 minutes du chemin du disciple. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Pour que chacun puisse bien saisir dans quelle direction va l'Église. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, le chemin du disciple, c'est quoi? Le chemin du disciple, c'est tout simplement un processus de croissance spirituelle pour que les nouvelles personnes qui arrivent dans l'Église et que les membres de l'Église de Victoire Centre Chrétien puissent continuer à croître de façon intentionnelle. Voilà le mot-clé, de façon intentionnelle, intentionnalité, pour que les gens qui viennent ici aient la possibilité de grandir dans le Seigneur. On a remarqué par le passé qu'il y a certaines personnes qui arrivaient ici et qui grandissaient spirituellement parce qu'ils avaient envie d'avancer et d'autres pour qui c'était un petit peu plus difficile. Donc on a décidé de mettre une structure en place pour que les gens puissent savoir dans quelle direction va l'Église et comment ils peuvent monter dans le train. Voilà la définition du chemin du disciple. Ensuite, sa naissance. Comment ce chemin du disciple est né? Tout simplement, en 2007, il y a eu une réflexion sur comment est-ce que les gens qui viennent à Victoire Centre Chrétien peuvent croître? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à grandir dans le Seigneur? Donc, il y a d'abord eu, dans un premier temps, la réinstallation, la restauration des groupes de maison. Donc, cette église est fondée ou a été fondée sur le principe des groupes de maison. C'est des groupes d'études dans les quartiers de Nice où on étudie la parole et où on peut inviter des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Ça, c'est le but des groupes de maison. Et donc, en 2007... Pendant un certain temps, ça n'existe plus. Et en 2007, ces groupes de maison ont été réinstaurés dans l'Église. Donc ça, c'était la première étape pour se dire comment amener les gens à la maturité. Et la deuxième étape, c'est justement cette structure qu'on appelle le chemin du disciple. Sa base biblique, elle est simple. C'est celle que Jésus nous a donnée de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Faites de toutes les nations des disciples. » Et nous sommes une église bénie parce qu'il y a beaucoup de nations représentées dans cette église. Et nous aimons ça, et c'est une valeur fondamentale de l'église qu'il y ait de la multiculturalité ici dans l'Assemblée. Et je crois que c'est le plan de Dieu. C'est la famille de Dieu. Donc, voilà la base biblique de ce chemin du disciple. L'objectif, c'est quoi? Tout simplement, accueillir, positionner et former les gens que Dieu nous envoie. Dans quel but? Afin de gagner le plus grand nombre à Christ. Accueillir, positionner et former les gens que Dieu nous envoie afin de gagner le plus grand nombre à Christ. Alors sa structure, quelle est sa structure? Donc vous voyez que, ça va. Peut-être vous avez reçu un petit papier comme ça, ça va aussi être affiché sur l'écran. Vous avez chemin du disciple, passion pour Dieu, compassion pour Dieu, pour tous. Ensuite, vous avez une flèche où c'est marqué groupe de maison. C'est-à-dire qu'on aimerait que chaque personne qui arrive ici à l'église puisse se trouver un groupe de maison. Un groupe où on peut échanger, prier ensemble, étudier la parole et inviter d'autres personnes. Donc vous voyez que c'est un petit peu la colonne vertébrale de tout ce processus. Le chemin du disciple, ce n'est pas juste un de ces modules que je vais présenter, ce sont tous les modules. D'accord? Juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc vous avez un module de présentation. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui, après la célébration, vous avez l'occasion de rencontrer les pasteurs. Ça c'est une fois par mois, c'est un petit apéritif, et le but c'est de présenter un petit peu l'église aux nouvelles personnes. Présentation, ça c'est une fois par mois, le dimanche. Pour les personnes qui viennent le samedi, on est en train de réfléchir pour le faire le samedi également. Ensuite vous avez un module qui s'appelle fondation, fondement du croyant. Tous les dimanches à 9h, vous avez l'occasion d'aller dans la salle annexe ici et il y a un enseignement de base sur la foi chrétienne. C'est ouvert à qui? C'est ouvert aux personnes qui viennent de rencontrer le Seigneur, c'est ouvert aux personnes qui viennent de l'extérieur et qui arrivent dans l'église et c'est ouvert aux personnes qui veulent devenir membres de Victoire Centre Chrétien. Donc c'est tous les dimanches matin de 9h à 9h45 et c'est un cycle de 8. Si vous voulez devenir membre de l'église, on va vous demander de faire ces cours. On va vous demander, oui je veux devenir membre, ok, est-ce que vous avez fait les fondements du croyant? Si vous voulez servir dans une équipe, on va aussi vous poser la question, est-ce que vous avez fait les fondements du croyant? Donc c'est, si vous voulez, un passage obligé pour bien comprendre les valeurs fondamentales de la foi chrétienne et pour bien comprendre les valeurs fondamentales de l'Église également. On présente ce qui est la dîme, par exemple, ou des choses comme ça aussi. Ensuite, vous avez un module orientation. Donc, pour devenir membre, alors là, vous pouvez sortir votre agenda. C'est aussi pour ça qu'on présente ce chemin du disciple aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs échéances qui arrivent où vous avez l'occasion d'avancer dans ce processus. Donc, devenir membre, ça sera le mardi 26 février à 18h30. C'est pas long, ça va durer une heure. Et là aussi, on va vous montrer un petit peu comment vous pouvez devenir membre de l'Église, parce que l'Église a un statut d'association, association cultuelle. Donc, on a un statut de membre. Donc, vous pouvez venir membre de l'Église. Et une fois que vous avez fait cette classe ou cette réunion pour devenir membre, il y a un entretien pastoral avec un des pasteurs et un membre de l'équipe pastorale. Tout ça pourquoi ? Pour vous aider à vous orienter et à vous positionner dans le corps de Christ local. C'est-à-dire apprendre à mieux vous connaître pour que vous puissiez trouver votre place dans l'Église. Et ensuite, vous avez deux modules de formation. Donc, il y a un module qui s'appelle « Fonctionner en équipe ». Donc ça, on le fait 4 fois par an. La prochaine formation, vous pouvez noter, c'est marqué ici, ça sera le samedi 23 février de 13h30 à 17h. C'est ouvert à qui ? C'est ouvert à toutes les personnes qui ont envie de servir dans l'Église. Et on enseigne comment servir, pas tout seul, mais en équipe. Et c'est une formation basée sur la parole de Dieu, et je vous promets que ça va aussi vous aider dans votre vie professionnelle. D'apprendre les principes bibliques, les principes de Dieu pour pouvoir œuvrer ensemble. Vous savez qu'il y a des gens dans la sphère professionnelle qui ne sont pas chrétiens et ils ne savent même pas, ils sont en train d'appliquer des principes bibliques et ils sont bénis. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Vous prenez cette parole, vous la mettez en pratique et vous obtenez des résultats. Donc on apprend qu'est-ce que dit la Bible sur le fait de travailler ensemble. Donc ça sera le samedi 23 février de 13h30 à 17h. On le fait 4 fois par année. C'est 4 sessions de 40 minutes. Donc si vous avez envie de servir dans l'Église, venez. Et si vous êtes membre de l'Église, vous pouvez bien sûr venir aussi. Et ensuite, il y a encore un module formation qui s'appelle « Devenir responsable ». Ce processus, il n'est pas figé. Il y a encore des choses qui vont être ajoutées. Mais c'est destiné à ceux qui vont prendre des responsabilités dans l'Église. Pour l'instant, ce module est sur invitation. Et puis, on va en faire ce module, ça sera le dimanche 10 mars de 13h à 15h30. Donc voilà un petit peu pour ce chemin du disciple. Si vous avez des questions, moi je suis la personne responsable pour l'instant, n'hésitez pas à venir me voir et à m'interroger là-dessus. Mais on a envie vraiment, toute l'équipe pastorale, que les membres de l'Église avancent cette année en 2013. Si vous devez retenir une chose de tout ce que je viens de dire, c'est celle-là. Il y a une place pour vous à Victoire Centre Chrétien. Tout ceci, c'est simplement pour vous aider à trouver votre place dans le corps de Christ local. C'est que ça. Toutes ces structures, c'est pour que vous vous sentiez à l'aise dans l'Église et pour que vous puissiez trouver votre endroit où vous pouvez servir le Seigneur. Et je vais, avant de passer à la prédication, vous donner encore ce verset, Actes 26, verset 16. C'est le Seigneur Jésus qui parle à Paul et lui dit « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Quel est le rôle ou quel est le rôle de chacun dans le royaume de Dieu ? C'est très simple. Vous êtes ministre et vous êtes témoin. Tous. Vous êtes tous ministres, ça veut dire quoi ? Vous êtes tous serviteurs. Ministre, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire serviteur. Nous sommes tous serviteurs dans le royaume de Dieu. Jésus a dit que le plus grand, c'est celui qui sert. Donc ce système est pour que vous trouviez votre place de service dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit aussi à Paul, ministre et témoin. Donc là, on va passer dans le côté prédication, on va en parler du fait des témoins du royaume de Dieu dans le monde. Donc là, on a parlé des affaires de la famille, l'église locale, c'est la famille, et maintenant on va parler des affaires du royaume de Dieu. Ça vous intéresse ? Alors, on va passer à la prédication. Vous avez vos Bibles ? Vous êtes prêts ? Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous savez, la qualité d'une réunion, elle est basée sur la faim et la soif de ceux qui y participent. Elle n'est pas basée sur le nombre de personnes qui viennent. Elle est basée sur la soif et la faim qu'il y a dans le cœur de chacun. Merci Père, je prie que nous soyons disposés et ouverts à entendre ta parole ce matin. Que nous soyons assoiffés et affamés de la vérité, parce que la vérité nous rend libres dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelques semaines, notre frère Dave avait partagé un verset pour les dîmes et les offrandes et il avait parlé de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Ce verset dit ceci, c'est Jérémie qui s'adresse à des gens qui sont captifs à Babylone, mais en fait, il parle vraiment par l'intermédiaire de... Enfin, il parle au nom de Dieu, mais il écrit une lettre Et il dit à ces gens de Jérusalem qui sont captifs à Babylone ceci. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc le peuple de Dieu est en captivité à Babylone et pourtant l'instruction de Dieu est recherchez le bien de cette ville et priez en sa faveur. Alors Dave avait partagé ce verset dans le cadre des dîmes et des offrandes, mais moi ce verset a continué à me travailler. Je me suis dit comment je peux chercher? Comment je peux chercher, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, ou rechercher le bien de la ville où je suis. Vous êtes d'accord que la ville, c'est quand même une échelle assez grande. C'est quand même une échelle assez large. Comment je peux rechercher le bien de la ville? Eh bien, moi, je pense que si je recherche le bien dans mon travail, je recherche le bien de ma ville. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, de rechercher, parce que nous parlons de chercher, encourager, transmettre, de rechercher le bien dans ton travail. Quelque chose se passe lorsque tu commences à rechercher le bien dans ta sphère professionnelle. Dans ta sphère professionnelle, tu y es tous les jours. Tu y es 5 jours sur 7, 7, 8, 9, 10 heures par jour pour certains. Et si je peux faire une différence pour le royaume de Dieu, c'est bien dans mon travail. Je passe 8 heures par jour au travail sur 24 heures. Ça veut dire un tiers de ma vie est dédiée au travail. Donc là, je peux rechercher le bien de ma ville si je recherche le bien dans mon travail. Exemple concret, on m'a proposé un travail dans une entreprise récemment et ma première condition a été de dire « Je ne fais pas de travail non déclaré ». Si vous êtes d'accord avec moi, on va commencer à pouvoir s'occuper de certaines affaires ensemble. Mais c'était ma condition. Pourquoi ? Parce que je recherche le bien de ma ville. La ville a besoin de mes impôts pour pouvoir vivre, pour pouvoir fonctionner. Donc si je recherche le bien dans mon travail, si je recherche l'honnêteté dans mon travail, si je veux du travail déclaré dans mon travail, c'est parce qu'à terme, je recherche le bien de ma ville. Donc c'est de ça que l'on va parler, de rechercher le bien dans le travail. N'oublions pas ce que Jésus lui-même a dit à ses disciples. Jésus a dit que vous êtes lumière du monde et sel de la terre. Oui, mais je croyais que c'était Jésus la lumière du monde. Jésus était la lumière du monde quand il était sur terre, mais il n'est plus sur terre. Essayez de trouver Jésus. Vous n'allez pas le trouver. La Bible dit qu'il est un corps glorifié à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Par contre, il a dit que maintenant, c'est nous, les disciples de Jésus, les disciples du Maître. Il a dit de nous en Matthieu 5, versets 13 et 14, que c'est maintenant vous la lumière et c'est maintenant vous le sel de la terre. Mais où c'est que je peux être la lumière du monde? Il n'a pas dit la lumière de l'Église, il a dit la lumière du monde quand on sort. Il a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et s'il y a bien un endroit où je peux être la lumière du monde et le sel de la terre, 8 heures par jour, c'est dans mon travail. Mais comment est-ce qu'on peut rechercher le bien dans son travail? Nous allons le voir un petit peu plus tard. Il y a une définition de l'Église que j'apprécie beaucoup. Elle est simple, mais elle m'aide à remettre les priorités. Elle va apparaître la définition. L'Église a pour but de représenter Christ dans toutes les sphères de la société. L'Église a pour but de représenter Christ dans toutes les sphères de la société. Donc quand tu es au travail, tu n'es pas moins chrétien que quand tu es à l'Église. Tu restes chrétien et en plus, tu déclenches le fait que tu deviens lumière et sel. Vous savez, je fais essentiellement du ministère aujourd'hui, mais ça m'arrive d'avoir un pied dans l'entreprise encore. Cette semaine, j'étais un jour et demi dans une entreprise. De par ma formation de journaliste, je fais un petit peu des reportages et aussi un petit peu de journaliste pour une entreprise. Et j'ai remarqué ceci. Lorsque je recherche le bien de l'entreprise et pas mon propre bien, je deviens le sel et la lumière du monde. Je répète, lorsque je recherche le bien de mon entreprise et pas mon bien personnel, je deviens sel et je deviens lumière du monde. Le problème, c'est que nous, on se focalise sur notre bien personnel. Vous allez au travail et vous recherchez votre bien personnel. Et du coup, vous êtes frustré de votre emploi. Mais moi, je vous dis aujourd'hui de rechercher le bien de votre entreprise, de rechercher le bien de votre employeur, de rechercher le bien de vos employés, de rechercher, si vous êtes employeur, le bien de vos clients. Et votre travail ne sera plus juste un travail, mais vous serez témoin et représentant de Christ dans votre travail. Et là, votre optique du travail, elle change. Et là, vous n'allez plus au travail simplement pour faire un boulot. Vous allez représenter Christ. Et j'ai essayé, vous savez, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai essayé d'éviter le travail pendant 30 ans, mais je n'ai jamais réussi. Il m'a toujours rattrapé. Hein. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais le travail, ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. C'est quelque chose qu'il faut embrasser. Tu ne peux pas éviter le travail. Il faut l'embrasser. Il faut que... Est-ce que tu as envie... Moi, j'ai encore 35 années dans le travail. Est-ce que ça va être une tare toute ma vie ou alors est-ce que je vais prendre la décision de m'épanouir dans mon travail? Mais moi, je te dis simplement, tu veux t'épanouir dans ton travail? Recherche le bien de ton entreprise. Recherche le bien de ton entreprise. Et peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle qui vous déplaît. C'est fréquent aujourd'hui d'être dans une situation professionnelle qui ne nous plaît pas. Et moi, je vous dis que la consigne, elle reste la même. Tu représentes Christ, même si ton travail ne te plaît pas, et tu recherches le bien dans ce travail. Et si tu prends ces deux choses en considération, si tu recherches le bien dans ce travail, et si tu représentes Christ dans ce travail, tu ne vas pas rester dans ce travail que tu n'aimes pas très longtemps. Parce que très rapidement, tu vas te démarquer. Parce que ton travail ne devient plus simplement un boulot, mais tu le prends comme quelque chose de supérieur. Je peux par exemple nettoyer les toilettes qui sont là. Ma question va être, si Jésus devait venir dans cet endroit, comment est-ce qu'il aimerait trouver les toilettes qui sont là? Si tu continues de travailler pour ton patron, si tu continues de travailler pour les hommes, ton travail va rester médiocre. Mais si tu recherches Dieu dans ton travail va passer de la médiocrité à l'excellence. Parce que tu ne travailles plus pour les gens. J'espère que votre travail ne dépend pas des gens qui sont entourés de vous. Moi, je travaille beaucoup ici dans l'église locale pendant la semaine. Mais alors, le pasteur n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Le chat n'est pas là, les souris dansent? Non. Mon travail ne dépend pas du pasteur qui vient voir ce que je suis en train de faire. Mon travail dépend que j'honore Dieu dans mon travail. Peu importe qui m'entoure, que ce soit patron, collègue, non. J'honore Dieu dans mon travail. Et je recherche le bien de mon église locale. Quand je pars un jour par semaine dans l'entreprise, je recherche le bien de cette entreprise. Lorsque je suis invité à prêcher, à enseigner ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je rencontre le pasteur, je rencontre le responsable spirituel et je vais lui dire, comment est-ce que je peux bénir ton groupe de jeunes? Comment est-ce que je peux servir ton église locale? Dans quelle direction va ton église? Qu'est-ce que tu es en train de renforcer maintenant? Comment est-ce que je peux être une bénédiction? Comment je peux rechercher le bien de ton église là? Ton groupe de jeunes, il va dans quelle direction? Qu'est-ce que tu es en train? Comment je peux servir? Et si tu vas dans ton travail avec cette optique, comment je peux servir? Jésus a dit que les plus grands dans le royaume de Dieu, ce sont des serviteurs. Mais nous, on a toujours la mentalité, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quel boulot tu as pour moi? Quelle église tu as pour moi? Quel ministère de jeunes tu as pour mes enfants? Au lieu de se dire, qu'est-ce que moi, je peux apporter dans mon travail? Qu'est-ce que moi, je peux donner dans mon travail? La Bible est claire, dans le royaume de Dieu, c'est le principe suivant. Il faut d'abord donner avant de recevoir. Donnez et il vous sera donné. Si tu t'attends à ce que ton travail te donne satisfaction, tu perds ton temps. Par contre, si tu vas au travail et tu dis, mon travail va changer parce que je vais donner quelque chose, là, tu vas gagner ton temps. Représenter Christ dans son travail. Rechercher le bien dans ce travail. Oui, mais je déteste mon travail. Écoutez, la consigne qui a été donnée à ces gens qui étaient captifs à Babylone, ils étaient en captivité. Et peut-être tu as l'impression que tu es captif dans ton travail, parce que ton travail te déplaît et tu n'es pas en train de maximiser le potentiel que Dieu a mis en toi ou de maximiser les dons et les talents que Dieu a mis en toi, mais la consigne reste la même. Tu représentes Christ et tu recherches le bien dans ce travail et tu ne vas pas rester à ce poste. Je suis allé aider à déménager une entreprise pendant 2 jours. Et c'est maintenant, ça a débouché sur un travail dans le journalisme. Je fais des mandats, des trucs freelance. Mais le patron, le collègue que je connais, il m'a dit, mon patron, il travaille beaucoup au feeling. Et en fait, on avait déjà quelqu'un, mais en fait, il veut que ça soit toi. Pourtant, je suis allé 2 jours dans l'entreprise. 2 jours. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé bouger des meubles. Mais en 2 jours, si tu recherches le bien de l'entreprise, tu fais la différence et tu deviens sel et tu deviens lumière. Vous voyez que c'est une question d'attitude. Il faut remettre les priorités en place. Regardez ce que dit la parole. Peut-être que vous dites, mais j'ai essayé de rechercher le bien avec mon patron, avec mes collègues, dans cette entreprise, mais j'arrive pas. Regardez ce que dit la parole, Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne, ça veut dire y compris votre patron, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes, patron, collègues, y compris. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Peut-être tu es las d'avoir fait le bien. Mais la Bible te dit, ne te lasse pas de faire le bien. Pourquoi ? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Peut-être que tu as fait quelque chose, tu as recherché le bien, et là tu es un peu découragé. La Bible te dit, fais encore le mille supplémentaire. Fais encore un pas de plus, et tu verras quelque chose va se déclencher. Alors, comment rechercher le bien dans son travail ? J'aimerais partager trois points avec vous. Le premier point, il faut changer de mentalité. Ne vous inquiétez pas, ça va apparaître. Changer de mentalité. Deuxième point, changer de perspective. Et enfin, changer de conduite. Et comment commence le changement ? Vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant. Le changement commence par un choix. Si tu ne décides pas de changer, il n'y a rien qui se passera. Tu dois décider de changer. Tu dois décider de changer de mentalité. Tu dois décider de changer de perspective. Et tu dois décider de changer de conduite. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Changer de mentalité. Vous savez que dans le royaume de Dieu, lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre public, la première chose qu'il a dite, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Les premiers mots publics que Jésus dit, Jésus parle de repentance. Alors, on rend souvent le mot « repentance » par changement de direction, mais c'est plus précis que cela. Le mot « repentance » veut dire « changer de mentalité », ce qui veut dire que pour nous qui sommes dans le royaume de Dieu commence par un changement de notre mentalité dans le monde du travail. Changeons notre mentalité lorsque nous allons travailler. Le mot « repentance » est rendu en grec par « metanoïa ». Ça veut dire « méta », ça veut dire « changer ». « Noia », ça veut dire « penser ». Il faut changer notre façon de penser. Il faut changer notre mentalité. Vous retrouvez par exemple le mot en français « métamorphose ».« Méta », c'est changer. « Morph », ça vient de « forme ». Changer de forme. Un papillon, par exemple, avant il était, comment on appelle ça, chenille. Et après, il a subi une métamorphose et il est devenu papillon. Eh bien, notre pensée doit subir une métamorphose. Elle doit changer de forme. Mais le papillon ne redevient pas chenille. C'est-à-dire que notre mentalité doit subir un tel changement dans le royaume de Dieu, mais elle ne revient plus en arrière après. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume de Dieu, il est invisible, parce qu'il commence là. Quel est le changement de mentalité que nous devons opérer par rapport au domaine du travail ? Le travail n'est pas une malédiction. Je répète, le travail n'est pas une malédiction. Peut-être que vous aviez la mentalité que le travail était une malédiction. Peut-être que vous aviez la mentalité que le travail était issu de la chute, mais ce n'est pas le cas. On va le voir dans la parole de Dieu. Mais le travail n'est pas une malédiction. Renouvelons notre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais le royaume de Dieu commence par le renouvellement de l'intelligence, par le changement de mentalité. Et il faut changer de mentalité par rapport au travail. Le travail n'est pas une malédiction dans ta vie. Proverbe 12, verset 27, regardons ce que dit la Bible. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Demandez à quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant 2-3 ans comment ils se sentent. Allez leur poser la question. S'ils ont l'impression que leur vie est en train d'être épanouie, s'ils sont en train d'avoir du fun dans la vie, non, ils n'ont qu'une préoccupation, c'est de retrouver du travail. Parce que selon la Bible, le travail, c'est l'activité. C'est le trésor de l'homme. C'est notre travail, c'est ce qui nous permet, c'est notre principale source de richesse. C'est notre principale source de revenus, c'est notre travail. C'est le précieux trésor d'un homme ou d'une femme. Donc selon la Bible, le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bonne chose. Dans le jardin, vous vous souvenez dans le jardin d'Éden ? La dernière chose que Dieu a faite dans le jardin, il a créé l'homme et la femme, mais la dernière chose qu'il a faite, ce n'était pas la création de l'homme et la femme. La dernière chose qu'il a faite, c'était la bénédiction de l'homme et de la femme. Il les a bénis et ensuite il leur a donné quoi ? En Genèse 2, verset 15, si je ne me trompe pas. Il leur a donné, non, ça c'était, c'est pas ça, lorsqu'il a demandé de cultiver et de garder. Donc, il les a bénis. Genèse 1, 28. Ah oui, Genèse 2, 15, c'est juste. Genèse 2, 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Retenez ceci. Dieu a béni. C'était la dernière action de la création. C'était pas la création de l'homme et de la femme, la bénédiction de l'homme et de la femme. Et dans cette bénédiction, Dieu leur a donné un travail qui était de garder et de cultiver le jardin. En d'autres termes, il y a un travail dans la bénédiction. Vous n'avez pas compris. Il y a un travail dans la bénédiction qui existe. Merci. En d'autres termes, le travail n'est donc pas la conséquence de la chute. Si tu as pensé que le travail était la conséquence de la chute, ce n'est pas juste. Le travail n'est pas la conséquence de la chute. Dans le jardin, il y avait un travail dans la bénédiction. Mais alors, quelle a été la conséquence de la chute sur le travail? Regardez dans Genèse 3. Nous allons lire 17 à 19. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, on va pas revenir là-dessus, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » C'était Adam qui avait reçu les instructions. Hein. Messieurs, ne rigolez pas. Hein. « Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » Voilà une conséquence de la chute sur le travail. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, premier point, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Deuxième chose, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc en fait, la chute a eu deux conséquences principales sur le travail. C'est travailler à force de peine et à la sueur de ton visage. Ça a été la conséquence de la chute sur le travail. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle, parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Dieu a mis en place, juste avant, en Genèse 3, 15, il a mis en place ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème de la rédemption, dimanche prochain, il y aura un sujet qui s'appelle le plan de la rédemption. Mais il faut bien saisir le mot rédemption, parce que la rédemption, c'est le thème principal de la Bible. Toute la Bible peut être résumée par le mot rédemption. Qui est le rédempteur ? Jésus-Christ. Il est le personnage principal. On peut le trouver dans tous les livres. Donc, si la rédemption est le thème principal de la Bible, il faut bien saisir la rédemption. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et moi, la définition que j'aime de la rédemption, c'est la suivante. La rédemption, c'est la restauration des droits perdus en Éden. La rédemption, c'est la restauration de ce qui a été perdu en Éden. Par conséquent, et c'est là que ça devient intéressant, la rédemption a restauré le droit dans nos vies de travailler dans la bénédiction de Dieu. Le plan que Dieu a pour toi concernant le travail, c'est un travail dans la bénédiction. Parce que la malédiction a été renversée à la croix. C'est ça le travail de la rédemption. Christ a payé le prix fort pour que tu aies le droit légal, parce que la rédemption implique qu'un prix a été payé, implique toujours un prix. La rédemption implique que le droit légal t'a été restitué de travailler dans la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est ton droit en tant que croyant. C'est ton droit en tant que chrétien. Tu as le droit de travailler dans la bénédiction. Oui, mais alors pourquoi je ne le vois pas ? Eh bien déjà, la Bible dit qu'on est citoyen des cieux. Et un citoyen, il faut déjà qu'il connaisse ses droits avant de les revendiquer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le royaume de Dieu, mais ils n'ont pas encore saisi leurs droits. Par exemple, en France, nous avons des droits et des devoirs en tant que citoyens, mais dans la citoyenneté des cieux, Philippiens 3:20 nous dit que nous sommes citoyens des cieux, il y a aussi des droits et des devoirs. Et un des droits, c'est que tu as le droit de travailler dans la bénédiction. Et lorsque tu connais ton héritage, et lorsque tu connais tes droits, l'autorité du croyant arrive dans ta vie. Parce que si tu sais que tu as le droit de travailler dans la bénédiction, eh ben tu vas te battre pour travailler dans la bénédiction. Si quelqu'un te vole ta voiture, et elle t'appartient vraiment, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi quand même que tu vas te battre et te dire, sur la carte grise, c'était mon nom, elle m'appartient légalement. Eh bien, c'est la même chose avec les choses spirituelles. Il faut saisir les droits spirituels. Et un droit spirituel, c'est que Christ a payé pour que la bénédiction qui était dans le jardin d'Éden, dans le travail, soit restituée dans ta vie. Et il a payé le prix fort pour cela. Alors, est-ce qu'on va laisser cette bénédiction nous passer entre les doigts ou on va la saisir, on va se battre, on va se tenir dessus, on va la déclarer et on va la vivre dans nos vies? Amen. Jésus était béni de Dieu. Vous êtes tous d'accord sur ce point? Est-ce que Jésus était béni de Dieu? Jésus, la Bible nous dit qu'il n'a jamais violé la loi. Et dans Deutéronome 28, ça nous explique que ceux qui n'ont pas violé la loi, voici toutes les bénédictions qui sont sur toi. Jésus était béni de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu étaient sur lui. Il grandissait en grâce, il grandissait en stature, il grandissait en sagesse. Il y avait la main de Dieu sur lui et pourtant il travaillait. Oups! Jésus était béni et il travaillait. Mais il travaillait dans la bénédiction. Il travaillait dans la bénédiction. Est-ce que nous voyons, alors, si Christ nous a rachetés de la malédiction dans le travail, il faut le voir dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai fait ma petite recherche. Allez dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 3, verset 12. Nous parlons de rechercher le bien dans notre travail. Mais pour pouvoir chercher le bien dans notre travail, il faut d'abord que notre mentalité change. Regardez ce que dit Paul. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Laisse-moi te dire, il y a un plan de Dieu pour toi dans le travail. C'est un travail paisible, c'est un travail dans la grâce, c'est un travail dans la bénédiction. Il est dit ici, travaillez paisiblement. C'est quoi un travail dans la bénédiction? C'est un travail où tes talents ne sont pas enterrés. Vous vous souvenez de la parabole du talent? Il y a trop de gens qui font un travail, mais ils enterrent leur talent. C'est pour ça qu'ils sont frustrés. Parce que ça ne correspond en aucun cas avec le potentiel que Dieu leur a donné. Du coup, ça crée une frustration dans leur cœur. Mais il y a un travail paisible, un travail dans la grâce, un travail dans la bénédiction de Dieu pour toi. Est-ce que tu vas saisir cette promesse aujourd'hui? Un travail où ce que Dieu t'a donné, le potentiel, c'est ce que Dieu a placé en toi. Où là où tu travailles, tu vas pouvoir les mettre en œuvre et rendre ce que Dieu t'a donné et tu le rends à Dieu. Le travail, essayons de concevoir le travail comme un endroit où je multiplie mes talents, un endroit où mes dons sont exploités, un endroit où mon potentiel grandit. C'est ça le travail dans la bénédiction. La Bible ne dit jamais que le travail dans la bénédiction, c'est la paresse ou ne rien faire. Le travail dans la bénédiction, c'est lorsque tu exploites ce que Dieu t'a donné. Là où il te défie dans certains, oh là là, j'ai jamais fait ça dans mon métier, mais Dieu t'attend là qu'il y a un défi, parce qu'il croit en toi, il croit qu'il y a encore plus en toi, il a encore placé plus de choses en toi. Mais tu ne les as pas encore découvertes parce que tu n'as jamais été défié. Le défi est bon, il te permet de te découvrir, et la plus grande découverte, c'est la découverte de toi-même. Quand tu te découvres toi-même, quand tu te découvres tes dons, quand tu découvres tes talents, le travail n'est plus une obligation. C'est un lieu d'épanouissement. Là où tu ressors tout ce que Dieu a mis en toi et tu l'honores dans ton travail, ça c'est ce que j'appelle un travail dans la bénédiction de Dieu. Deuxième point, saisis que ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Peut-être vous vous dites, oui mais moi je ne travaille plus. Merci beaucoup, vous avez contribué toute votre vie, vous avez le droit de vous reposer, n'est-ce pas? Mais par contre, regardez ce panneau ici. Transmettez ceci à vos enfants. Dites à vos enfants qu'il y a un travail dans la bénédiction de Dieu pour eux. Enseignez-leur ces choses. Dites-leur, encouragez-les que dans le travail, ce n'est pas une malédiction de Dieu, mais qu'il y a un travail dans la bénédiction de Dieu que Dieu a prévu pour toi. Et les encourager dans leur sphère professionnelle à représenter Christ et à rechercher le bien dans leur travail. Premier point, changer de mentalité. Deuxième point, changer de perspective. Rassurez-vous, les points seront un peu plus courts. Changer de perspective. Quelque chose m'a longtemps travaillé. Pourquoi est-ce que ceux qui sont héritiers de l'ancienne alliance, le peuple juif, sont plus prospères que ceux de la nouvelle alliance, l'Église de Jésus-Christ? Et c'est un fait avéré Il y a même beaucoup de blagues assez mal placées là-dessus sur le fait que le peuple juif est prospère dans le milieu des affaires. Et vous savez que pour un juif, c'est inconcevable de concevoir la bénédiction de Dieu sans la matérialisation de cette bénédiction. Pour eux, la bénédiction doit se matérialiser dans les affaires, se matérialiser dans les relations. Ils ont ce mot « shalom » qui veut dire la plénitude de Dieu, le shalom de Dieu sur eux. Et du coup, ça change leur vie naturelle, ça change leur vie physique. Et je me suis posé la question, mais pourquoi dans l'Église, on ne voit pas ça? Pourquoi ceux qui sont héritiers de l'ancienne alliance sont beaucoup plus épanouis professionnellement que ceux de la nouvelle? Et j'ai découvert un principe. Et je crois qu'il va nous aider. Pour un juif, le travail n'est pas une obligation. C'est un acte d'adoration. Il honore Dieu. Pour lui, vous savez, ça vient de la pensée grecque, ça ne vient pas de la pensée juive. La pensée grecque dissocie tout. Elle dissocie ce que tu fais à l'église et ce que tu fais la semaine. Mais la pensée juive ne fait pas ça. La pensée hébraïque prend le surnaturel de Dieu et impacte le naturel, peu importe où tu es. Ça, c'est la pensée hébraïque. Ça, c'est la pensée juive. La pensée grecque, c'est tout le temps dissocié. Ah, je fais ici, je fais ça avec mon esprit, mais avec mon corps, je fais ce que je veux. Non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la pensée juive, la pensée hébraïque. Et pour quelqu'un qui est héritier de l'ancienne alliance, le travail est un acte d'adoration. Quand il va travailler, il va adorer Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu adores ton travail. Je suis en train de dire qu'au travail, tu peux adorer Dieu par ce que tu fais. Je peux adorer Dieu en nettoyant le cabinet de toilette. Je peux dire, comment adorer Dieu? Si Jésus venait s'asseoir, comment est-ce qu'il aimerait trouver les toilettes? Au lieu de dire, ah, oh, mais mon patron, il va contrôler ce truc, alors je vais vite y faire ça en 2-2, je vais mettre ça. Non. Si Jésus venait contrôler mon travail, comment est-ce que je le ferais? Là, tu vois que ton travail ne devient plus un acte d'obligation, il devient un acte d'adoration. Parce que tu ne le fais plus pour les hommes et tu le fais pour ton Dieu. Et là, tu passes de la médiocrité à l'excellence. Parce que tu le fais pour Dieu. Et moi, s'il y a bien quelque chose qui me travaille, c'est la médiocrité dans le corps de Christ. Je crois que nous sommes un peuple appelé à l'excellence. Parce que Daniel avait l'esprit de Dieu sur lui. Et il avait un esprit d'excellence. Et du coup, Dieu l'a placé auprès des rois. Un acte d'adoration ou un acte d'obligation. Lorsque non seulement tu as changé ta mentalité en croyant Dieu qui a un travail dans la bénédiction et que tu as changé ta perspective du travail, de ne plus le prendre comme un acte d'obligation. « Ah, il faut encore que je me lève ce matin. Ah là là. Non, je vais adorer Dieu ce matin. Wouh ! Je vais faire le meilleur pour mon patron. Je vais rechercher le bien de mon entreprise. Je vais rechercher le bien de mes collègues. Je vais rechercher le bien de mes clients. » Et là, ton travail prend une toute autre dimension. Ce n'est plus un acte obligatoire, c'est un acte d'adoration. Regardez ce que dit la parole. Tout ce que vous faites, en Colossiens 3, versets 23-24, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour qui? Pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Servez Christ, pas seulement dans l'église. Servez Christ partout, servez Christ le Seigneur. Et lorsque tu comprends que lorsque tu te rends à ton travail, tu représentes Christ, point 1, parce que nous sommes appelés à représenter Christ dans toutes les sphères de la société. Non seulement tu représentes Christ, mais tu sers Christ à ton travail change. La qualité de ton travail change. Et tu deviens sel et tu deviens lumière. Parce que tu as compris que tu es ambassadeur du royaume à ton travail et que tu sers Christ et que tu le représentes là. Hallelujah. Dernier point, changer de mentalité. Nous avons été restaurés pour travailler dans la bénédiction. Changer de perspective, le travail comme un acte d'adoration, pas un acte d'obligation. Et le troisième point, changer de conduite. Vous savez, il ne m'a pas fallu beaucoup d'heures dans l'entreprise dans laquelle j'étais cette semaine pour savoir qu'il y a de la malhonnêteté dans le monde de l'entreprise. Il n'y a pas que dans le monde de l'entreprise, il y a aussi de la malhonnêteté dans l'église, hein, je vous rassure. Mais On le voit, il n'y a pas besoin d'être là longtemps pour savoir qu'il y a des magouilles qui se créent. Mais regardons ce que dit l'apôtre Paul encore une fois aux Thessaloniciens. Apparemment, les Thessaloniciens, peut-être qu'ils avaient un petit problème avec le travail parce que chaque fois, Paul doit les exhorter dans ce domaine. 1 Thessaloniciens 4. Et nous allons lire 10 à 12. Mais nous vous exhortons, frères, donc c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Tiens, ça rendrait pas mal de service, ça, déjà. Et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, et verset 12, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. L'apôtre Paul nous dit ici que dans notre travail, notre conduite doit être une conduite honnête. Se conduire honnêtement au travail, comme par exemple l'exemple que je vous donnais, le fait que moi je veux être honnête envers les autorités de ce pays, je veux faire un travail déclaré. Être honnête dans son travail. Être honnête dans les heures, mon patron, si mon patron me paye 7-8 heures par jour, est-ce que je vais en passer 5 sur Facebook? Ça, c'est ne pas être honnête. Je ne suis pas en train d'être redevable envers mon patron. Mon patron me paye pour un certain travail et résultat, je suis en train de faire des réseaux sociaux. Est-ce que je suis en train d'être honnête dans mon travail? Peut-être que vous n'êtes pas employé, mais vous êtes employeur. Est-ce que vous êtes honnête avec vos clients? Est-ce que vous présentez un produit et vous allez honorer votre contrat jusqu'à la fin? J'ai entendu aujourd'hui, cette semaine, des contrats. On avait décidé ça et à la fin, le projet n'était pas forcément conforme au contrat. Est-ce qu'on va rechercher l'honnêteté dans nos contrats avec les clients? Si vous êtes employeur, est-ce que vous rémunérez vos employés honnêtement? Selon ce que vous leur devez, vous voyez que peu importe si vous vous positionnez de l'employé ou de l'employeur, vous devez appliquer dans le royaume de Dieu l'honnêteté. Oui, mais ils pratiquent tous la malhonnêteté. Jésus a dit, il n'en sera pas de même parmi vous. On ne peut pas opérer dans le royaume de Dieu comme dans le monde. Si on veut être sel et lumière et on fait comme le monde, on perd notre saveur. Et on perd notre huile. Et certains, vous êtes une lampe. C'est la Bible qui dit, vous êtes une lumière. Mais vous n'avez plus d'huile dans la lampe. Si vous êtes déconnecté d'une église locale, au bout d'un moment, votre huile, elle commence à se dessécher. Revenez dans la maison de papa. Revenez écouter la parole de Dieu. Revenez vous remplir de l'Esprit de Dieu. Venez vous fortifier avec les frères et sœurs qui aient de l'huile dans votre lampe, que lorsque vous sortez la semaine, ça brille et ça fasse la différence. Mais la Bible nous dit ici de nous conduire d'une façon honnête dans le travail. Alors peut-être qu'on a tous une certaine façon de décrire l'honnêteté ou de définir l'honnêteté dans le travail. Mais vous savez que dans cette église, nous avons une valeur fondamentale et c'est l'honnêteté. Nous voulons des relations, non seulement avec nos frères et sœurs, mais dans nos familles aussi, des relations honnêtes. Nous enseignons ça aussi dans la formation fonctionnelle en équipe. Être honnête les uns envers les autres. Alors qu'est-ce que c'est l'honnêteté ? Alors vous pouvez ouvrir un dictionnaire pour voir la définition si vous voulez. Moi, je vais vous donner la mienne, peut-être que vous avez la vôtre. Mais pour moi, l'honnêteté, c'est ceci. C'est dire la vérité au risque de déplaire. Dire la vérité à son employeur ou à son collègue au risque de déplaire. Ça, c'est être honnête. Et j'ai été confronté, vous savez, quand vous prêchez ici devant des gens, vous savez que vous allez être testé soit avant, soit après, sur ce que vous êtes en train de proclamer aux autres. Peut-être vous avez pas prêché comme ça en publiquement, mais vous avez exhorté quelqu'un et tout d'un coup, vous êtes testé dans ce domaine précis. Et cette semaine, j'ai été confronté à cela. La personne qui m'emploie dans l'entreprise, là, dont je vous parle, elle m'a demandé mon avis sur quelque chose. Et je me suis dit, oh là là, on vient de faire un arrangement pour qu'on puisse travailler ensemble, etc. Il me demande ma question, mais en fait, je vois très clairement que c'est pas un document réel. Il me demande mon avis, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais plaire à cet homme et lui dire « C'est super votre document, c'est un vrai, parfait. » Il me montrait un document suisse. Et il voulait savoir, vu que je suis suisse, est-ce que c'est vraiment un vrai document? Moi, dès le premier coup d'œil, j'ai vu que c'était un document falsifié. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dire un mensonge pour lui plaire parce qu'il vient de m'employer? Ou est-ce que je vais lui dire la vérité au risque de lui déplaire? Et là, dans mon cœur, ça faisait « Philippe, honnêteté, honnêteté, honnêteté. » Honnêteté. Parce que vous savez quoi? Ma femme ou n'importe qui ne m'a jamais reproché d'être honnête. Les gens vont vous reprocher d'être malhonnête. Peut-être que certaines fois, le fait d'être honnête, ça fait un peu mal, mais les gens, ils ne vont pas vous le reprocher. Alors je me suis lancé, j'ai dit, écoutez, Vous voulez vraiment mon avis? Je pense que ce document, c'est un faux. Et voilà, voilà ce qui me dit pour lesquels c'est un faux. Regardez l'écriture, regardez ici les références, ça ne colle pas. Et du coup, j'ai osé dire la vérité à mon employeur au risque de déplaire. Pour moi, c'est ça l'honnêteté. Mais là, on peut prendre ceci dans toutes nos relations. Peut-être que dans l'église locale, dans les équipes de service, vous avez eu un froid avec un responsable, un froid avec un frère et sœur. Et en fait, vous n'avez jamais eu l'honnêteté de dire ce que vous ressentez vraiment ici au fond. Et du coup, votre relation avec cette personne, elle est en train de plonger. Parce que la vérité a franchi. Mais la malhonnêteté te lie. Alors, si l'honnêteté, c'est dire la vérité au risque de déplaire, qu'est-ce que la malhonnêteté? Est-ce que ça simplement faire des magouilles? Est-ce que c'est emmener un client un petit peu, lui dire, voilà, oh moi je vais faire ci pour ça, puis en fait on ne le fait pas? Ça, c'est une forme de malhonnêteté, mais il y a une forme plus subtile de malhonnêteté. Ne pas dire la vérité pour plaire. Ne pas dire la vérité pour plaire à quelqu'un d'autre. Et rassurez-vous, certaines fois, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, et certaines fois, nous, en tant que chrétiens et enfants de Dieu, nous savons ces choses, mais nous ne les vivons pas. Nous avons eu peur de dire la vérité parce que nous voulions plaire à quelqu'un. Et peut-être qu'il y a une relation avec ton employeur, c'est plus une bonne relation parce que tu as eu peur de déplaire. Tu as préféré plaire au lieu de dire la vérité. Et du coup, ça te noue. Peut-être que c'est avec un collègue, peut-être que c'est avec un responsable spirituel, mais en fait, la malhonnêteté a pris le dessus et du coup, cette relation, elle est un peu tendue. Elle n'est pas bonne. Mais vous savez quoi? Dieu nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour dire la vérité. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta sphère professionnelle, dire la vérité à ses clients, être honnête avec ses clients, être honnête avec son employeur. C'est-à-dire que s'il me convoque à 8 heures, arriver à 8 heures, etc. Quelqu'un a dit, si tu arrives à l'heure et tu dis la vérité, tu es déjà en train de te mettre au-dessus du lot. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à l'heure et ne disent pas la vérité. Quelqu'un a dit, tu arrives à l'heure et tu dis la vérité, tu te places déjà dans une position où tu excelles. Ce n'est pas difficile. Pour nous chrétiens, ça ne devrait pas être difficile, n'est-ce pas? J'ai remarqué ceci, c'est très facile d'être excellent entouré de gens médiocres. Ben oui, il suffit d'arriver à l'heure, puis tu es déjà excellent. Ou tu dis la vérité. Non, par contre, c'est très dur d'être excellent entouré de gens excellents. Peut-être qu'il y a de la médiocrité à ton travail, mais représente Christ. Sers Christ, et là, tu vas faire une différence. Si tu attends que l'atmosphère dans ton travail, je rencontre beaucoup de gens qui aiment leur travail, mais qui détestent l'ambiance de la boîte. Si tu attends que la boîte change d'atmosphère, tu es en train de perdre ton temps. Dieu est en train de te dire, le changement commence par toi. Toi, tu peux changer et établir une culture d'honnêteté dans ton entreprise. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer ici avec toi, Centre Chrétien. Une culture d'honnêteté et arrêter de se masquer, bas les masques, avec des espèces de mensonges, machin. On met un petit verset biblique pour sentir bien. Et en fait, on n'est pas en train de dire la vérité. Typiquement, ah, merci d'avoir prié pour moi, j'étais en déplacement. Mais j'ai pas prié pour cette... Et on n'a pas prié. Alors vous faites comme Pasteur Laura. Moi j'ai appris ça. Vous priez tout de suite. Prie pour moi, pour père. Ok. Et tu pries directement pour la personne. Comme ça, si la personne revient, tu dis, au moins tu as prié une fois. Mais vous êtes d'accord que certaines fois, en tant qu'enfant de Dieu, on est les pros de mettre un petit mensonge blanc par-ci, par-là. Hein? On ne dit pas entièrement la vérité, on essaye de masquer. Au nom de quoi? Au nom de l'amour et de la compassion. Mais on marche dans l'amour, on est dans la compassion, oui, mais on est assez dans l'amour pour dire la vérité à son prochain. Jésus, la Bible nous dit dans Éphésiens, nous avons prié ça ce matin avec l'équipe pastorale, Paul nous parle d'être enraciné et fondé dans l'amour. Jésus était enraciné et fondé dans l'amour, mais ça ne l'empêchait pas de dire la vérité à son prochain. Résultat, les pharisiens n'étaient pas contents, les sadducéens n'étaient pas contents. Mais Jésus, il n'y a pas de dissociation entre la vérité et l'amour. Tu peux être dans l'amour et dire la vérité. Jésus nous le montre. Jésus était dans l'amour, mais il disait la vérité à son prochain. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça ne te plaît pas? C'est pas grave. Moi, je suis honnête avec toi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu ne veux pas me croire? C'est pas grave. Mais je suis juste en train de te dire, ça ne te plaît pas, mais je te dis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, ça déplaît à beaucoup de monde. Les gens sont d'accord avec l'idée de Dieu, mais pas à l'idée avec laquelle c'est Jésus qui nous emmène à Dieu. Mais lui, il a dit la vérité. Alors comment peut-on dire, je vais terminer là, comment peut-on dire la vérité à son prochain? Éphésiens 4 nous dit, parce que vous pouvez dire les quatre vérités à quelqu'un et vous pouvez blesser parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Mais vous pouvez dire la vérité à votre patron, à votre collègue, à votre frère, à votre sœur, dans l'amour. Dans l'amour, ça veut dire quoi ? Avec respect, avec dignité. La Bible nous dit aussi en Timothée de le faire avec toute douceur et en instruisant. Si tu dis la vérité à quelqu'un pour le casser, tu n'es pas dans une démarche biblique. Tu peux dire la vérité dans l'optique de construire et d'instruire quelqu'un. Si tu vois que quelqu'un prend une mauvaise voie et tu ne lui dis pas la vérité, tu n'es pas en train de l'aimer. Tu n'es pas en train de l'aimer. Tu es en train de lui mentir. Et c'est la même chose. Là, on sort un petit peu du milieu professionnel, mais c'est quelque chose avec toutes nos relations. Si tu vois quelqu'un qui est en train de s'égarer et tu ne lui dis pas la vérité, tu es en train de lui mentir. Et pourquoi dire la vérité au risque de déplaire? Parce que la vérité, elle nous rend libre. La vérité, quand tu auras parlé à la personne avec qui, en fait, il y a tellement eu de choses qui n'ont pas été claires, qui ont été dites de manière claire, mais une fois que tu vas t'asseoir avec cette personne et dire, écoute, est-ce qu'on peut faire le point? J'ai été blessé dans cette situation. Est-ce que je peux être franc avec toi? J'ai été blessé dans cette relation. Et tu mets tes cartes sur table. Et tu laisses la vérité. Et tu verras que lorsque tu vas faire ça avec ton patron, avec ton collègue, tu vas avoir la liberté dont la Bible parle. La vérité rend libre. C'est pour ça qu'on dit la vérité au risque de déplaire, parce qu'elle libère. Et dernier point sur l'honnêteté. Donc, comment rechercher le bien à son travail? Changer de mentalité, le fait de travailler dans la bénédiction. Changer de perspective, être un adorateur à son travail. Et enfin, changer de conduite. Laisser notre conduite malhonnête de côté et prendre une conduite honnête. Et vous savez quoi? Peut-être que tu n'as pas un poste dans lequel tu t'épanouis actuellement à ton travail. Mais le fait d'être honnête, tu es en train de te positionner pour un poste à responsabilité. Je répète, lorsque tu cultives l'honnêteté dans ta vie, tu es en train de te positionner pour un poste à responsabilité dans ton travail. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a toujours vu les choses du point de vue de l'employé, mais mettez-vous à la place de l'employeur. Peut-être que quelqu'un n'a pas toutes les qualités techniques. Peut-être que quelqu'un n'a pas toutes les qualités relationnelles. Mais si j'étais employeur, je vais choisir quelqu'un d'honnête. Parce que lorsque je vais lui donner les finances, je sais que je peux compter sur lui et qu'il est loyal. Lorsque tu cultives l'honnêteté dans ta vie, tu te positionnes pour un poste à responsabilité dans ton entreprise. C'est ce qui s'est passé pour Philippe et Étienne. C'est pour ça que l'honnêteté, c'est pas seulement dire la vérité, c'est être un bon témoignage. Et lorsque tu as un bon témoignage à ton travail, tu verras que tu vas gravir les échelons. Touk, 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 touk. La Bible dit au temps convenable, peut-être que ça va pas aussi vite que tu penses, mais moi, en tant qu'employeur, je choisis quelqu'un d'honnête dans mon équipe. Quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai fait faux, j'ai fait une grosse commande, et bien en fait, maintenant on est dans le rouge. Au lieu d'avoir quelqu'un qui dit, oh là là, comment je vais faire pour me protéger du patron? Non, non, d'avoir quelqu'un qui vient vers moi et me dit, patron, j'ai fait une erreur. Voilà les faits. Merci, tu as été honnête. Maintenant, on sollicite toute l'équipe pour résoudre le problème. Ça, en tant que patron, je ne le suis pas, mais en tant que patron, c'est le genre de gens que j'aimerais avoir dans mon équipe. Des gens qui cultivent l'honnêteté dans leur vie. Et si nous, les chrétiens, on ne le fait pas, qui va le faire? Changer notre mentalité, changer notre perspective et changer de conduite. Imaginez un peu, si toutes les personnes qui sont ici commencent à rechercher le bien dans votre travail. Imaginez ce qui peut se passer si toutes les personnes qui sont là commencent à être le sel et la lumière dans leur lieu de travail. Nous allons être une église qui va augmenter en influence. Tu n'auras même plus besoin de prêcher par tes paroles parce que tes actions vont prêcher par elles-mêmes. C'est ça d'être témoin. Témoin dans le royaume de Dieu. On va reprendre notre verset et on va se lever. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez. Alors pour l'instant, on a parlé de rechercher, mais on a oublié la dimension de prier. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Nous allons faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait très souvent, mais nous allons prier pour nos employeurs. Mais alors tu me dis, oui, mais moi j'ai pas de travail. Très bien, prie la faveur de Dieu que lorsque tu vas avoir décroché un entretien, la faveur de Dieu sera sur toi et qu'il va te choisir pas et pas un autre. Oui, mais moi, je suis employeur. Est-ce que je prie pour moi-même? Non, mais tu peux prier pour tes employés ou tu peux prier pour tes clients. Par exemple. Mais alors, moi, je suis à la retraite, je prie pour qui? Priez pour le bien de la ville. Priez pour le bien de la ville, pour les autorités de la... Priez pour vos enfants, qu'ils trouvent leur place professionnellement, qu'ils travaillent dans la bénédiction, par exemple. Est-ce que tout le monde a un sujet de prière qui lui correspond? À l'école? Demande à Dieu la faim et la soif d'étudier. La faim et la soif d'étudier. Ne pas arriver à l'examen le dernier jour sans être préparé, mais d'être préparé. Parce que quand l'opportunité arrive, c'est trop tard de se préparer. Je répète, quand l'opportunité arrive, c'est trop tard de se préparer. La préparation précède l'opportunité. On prie ? Tout le monde a quelque chose à prier ? Amen. Merci, Père. Père, nous prions. Nous prions pour Victoire Centre Chrétien et les membres qui sont ici présents. Père, nous voulons être une église influente ici dans la ville de Nice. Victoire Centre Chrétien veut être une église qui recherche le bien de la ville de Nice. Nous voulons cultiver l'honnêteté dans nos déclarations d'impôts. Nous voulons cultiver l'honnêteté dans nos places de travail. Père, je prie pour les personnes qui ont besoin d'un travail dans le nom de Jésus. Je prie que la faveur de Dieu est sur eux. Je prie alors qu'ils se mettent à chercher le travail. Je prie qu'ils vont trouver dans le nom de Jésus. Et lorsqu'ils auront cet entretien, la faveur de Dieu sera sur eux. Merci Père pour ceux qui sont employeurs. Père, nous bénissons les employeurs de France dans le nom de Jésus. Et nous déclarons qu'ils continuent à faire créer de la richesse dans ce pays, dans le nom de Jésus. La main de Dieu est sur eux. Père, nous prions qu'ils puissent employer davantage de personnes parce que leur entreprise prospère, parce que leur entreprise grandit et ils sont une solution pour la société française. Merci Père pour tous les employeurs. Hallelujah. Père pour ceux qui sont employés. Père, je prie pour une bonne attitude au travail. Je prie que nous soyons témoins, représentants de Christ, que nous servions Christ, que ça ne soit plus simplement un acte d'obligation, mais que le travail devienne un acte d'adoration par lequel nous louons et nous adorons notre Seigneur dans notre travail. Merci Père. Que nous recherchions aussi, pour ceux qui ont des clients, le bien des clients. Le bien des clients. L'honnêteté dans le contrat. Oh, dans le nom de Jésus. Merci Père. Je sais qu'il y a des défis dans le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup de malhonnêteté. Mais tu nous appelles à aller à contre-courant, à mettre de l'huile dans notre lampe, dans notre ambassade, dans notre église locale. Et à continuer à briller et d'être le sel de la terre dans le nom de Jésus. Amen. On va faire quelque chose. Les personnes qui ont du travail, qui s'épanouissent dans le travail et qui veulent prier pour les autres, alors vous priez sur le travail, hein. On va vous donner l'occasion de prier pour ceux qui cherchent du travail et ceux qui veulent s'épanouir dans le travail. Alors, qui aime son travail et qui veut prier pour les gens? Ok, Wendy, Aurore, Rebecca, Corinne, Hervé, Lydia. Vous voulez bien venir? Il y avait d'autres personnes? Nathalie et Roger. Bernard. Ok, dans l'idéal, si on peut, les femmes, si vous pouvez aller vers les femmes et les hommes vers les hommes, ça arrangerait. Donc ces personnes, regardez-les bien, ils aiment leur travail et ils ont à cœur de prier pour vous. Si vous avez besoin de travail ou si vous avez envie de vous épanouir dans votre travail. Vous savez, chaque année à Victoire Centre Chrétien, nous croyons pour les gens, pour le travail. Mais cette année, nous avons décidé de mettre notre niveau de foi plus élevé et nous croyons pour un travail dans lequel nous sommes épanouis. Amen. Ok, le groupe de louanges va diriger et après ces personnes se tiennent à votre disposition pour prier pour vous.